Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste, les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour, nous sommes le mercredi 30 mai, c'est Divergence FM Cinérama qui c'est un cinéma un peu spécial puisque Cannes s'est achevé. Aujourd'hui, on n'aura pas de rubrique de cinéma bis puisque Manu, malheureusement, voilà, est, je crois, retenu sur un tournage.
Exactement.
Voilà, c'est ça. Cinéma, quand tu nous tiens. Et par contre, on a deux invités, Marine.
Oui, nous avons François Gaillard, jeune réalisateur montpelliérain, qui a été à Cannes cette année, comme les 10 années précédentes d'ailleurs, donc tu vas pouvoir nous en parler.
Et bonjour. Puis 10 années au compteur aussi pour Arnaud Clapier, qui est le tout récent, on va dire, parce que ça remonte à pas tellement longtemps, directeur du cinéma Utopia. Voilà, 10 années de Cannes, donc ce sera aussi l'occasion d'en parler, savoir ce que eh bien, un directeur de salle va faire là-bas, savoir ce qu'un réalisateur, jeune réalisateur va faire à Cannes. Et puis comme toi Marine aussi, tu es allée à Cannes, tu nous en as un peu parlé la semaine dernière, eh bien, ce sera l'occasion de discuter un peu tout ça. Et il y aura un petit montage aussi, où j'ai réussi à condenser en 9 minutes les 45 minutes de la cérémonie de clôture.
Voilà. Bravo.
Ah oui, non, c'est facile parce qu'il y a quand même un quart d'heure d'applaudissements, à peu près. Et sinon, il y aura aussi des chroniques, oui.
Oui, alors moi je vais vous parler de deux films qui n'ont absolument rien reçu à Cannes pour le coup, mais qui étaient présentés. Il y aura Cosmopolis de Cronenberg, ça sera l'occasion également de faire un petit blind test que tu as préparé, Vincent.
Absolument.
Et Sur la route de Walter Sales, qui était très attendu.
Et quant à moi, eh bien, j'ai pas pu voir Prometheus en avant-première hier. C'était à 5:30 que j'ai fait l'impasse. Et je me suis dit que c'était pas si grave que ça attendrait la semaine prochaine. Et puis, qu'est-ce que je voulais rajouter ? Oui, le fameux petit topo sur Haneke pour défendre Haneke et dire que c'est pas forcément quelqu'un d'ultra rigide, même dans son cinéma, qu'il n'est pas forcément austère.
Il a apparemment un peu perdu sa rigidité, puisque son dernier film s'appelle quand même Amour.
Oui, mais bon, après, faut voir.
Je ne sais pas s'il a encore besoin d'être défendu, là.
Et donc, c'est Cinérama.
Cinérama sur Divergence FM.
Donc, on va commencer eh bien, avec nos deux invités, tant qu'à faire. Alors, comment ça s'est passé, Cannes, pour vous ? Alors, on va commencer par le jeune réalisateur, tiens, François.
Alors, Cannes, cette année, ça s'est vraiment bien passé. C'est vrai que ça fait presque une dizaine d'années que j'y vais. Enfin, j'y suis pas allé chaque année, mais j'y suis allé au moins six fois. Et moi, j'ai vu un petit peu le marché changer, enfin, à la fois évoluer et régresser. C'est-à-dire que j'ai connu... la première fois que j'y suis allé, c'était en 2001. Et à l'époque, c'était un petit peu la folie. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de distributeurs et d'éditeurs DVD indépendants. Il y avait beaucoup de petites boîtes de prod aussi indépendantes. Il y avait notamment la boîte La Trauma de Lloyd Kaufman qui foutait un joyeux bordel au Carlton. J'étais l'année dans la chambre où ils s'étaient fait virer justement, où on leur avait interdit d'entrer au Carlton. À l'époque, c'était assez hallucinant. Il y avait des femmes à poil, des mecs habillés en Toxic Avenger, en Dolphin Man, tous les super-héros de La Trauma. Ils organisaient des marches pendant les avant-premières. Enfin, ils foutaient un joyeux boxon. Il y avait des punks. Enfin, c'était n'importe quoi. Ça fumait dans les pioles. On avait le droit, bien sûr, mais ça fumait des joints. C'était vraiment... ça partait vraiment en live. Et puis, au fur et à mesure, avec la crise un petit peu du cinéma, de la vidéo surtout, j'ai vu qu'il y avait beaucoup moins d'éditeurs DVD, pourtant que avec les années maintenant que je connais personnellement, qui sont présents. Les stands dans l'hôtel du Carlton, ils sont... cette année, il y en avait que 10. Avant, il y en avait au moins 40. Quoi. Enfin, c'est un marché qui a beaucoup changé. Parce qu'avant, c'était vraiment... Si on était un jeune réalisateur et qu'on voulait essayer de refourguer un film indépendant, on avait un peu plus de chance. Quoi. Donc, on pouvait rencontrer pas mal de boîtes. Moi-même, en 2003, j'avais réussi à vendre mon premier long, qui était vraiment calamiteux. Mais j'avais trouvé une boîte anglaise qui s'appelait Redemption Film. Qui l'avait acheté. J'avais rencontré des gens comme Menahem Golan, qui était l'ancien patron de la Canon aux États-Unis. J'avais rencontré des gens comme Philippe Martinez, qui lui aussi était un producteur français qui avait fait carrière aux États-Unis. Maintenant, tous ces gens-là, on ne les voit plus du tout en fait, au marché du film. Mais bizarrement, en fait, vu que les techniques nous ont permis un petit peu de nous perfectionner, que maintenant, tout le monde peut tourner au 5D, peut monter chez soi, par rapport à il y a 10 ans, par exemple, On rencontre beaucoup de jeunes réalisateurs et aussi tout s'est un petit peu centralisé, d'abord en France et puis aussi au Canada. Enfin, par exemple, vous avez tous entendu parler du film « Hobo with a Shotgun » de Jason Eisner. Et non, bon, je vois les regards.
Comment exclure ?
Comment exclure, voilà. C'est le dernier film de Rutger Hauer, qui était avant l'acteur fétiche de Paul Verhoeven, en fait. Et c'est un petit peu... tous ces gens un petit peu indépendants se sont regroupés. Par exemple, on a vu récemment, en France et dans d'autres pays, beaucoup de festivals de genre un petit peu se développer. Et l'important, c'est pas que ce soit des festivals de genre, c'est surtout beaucoup de festivals indépendants, en fait. Il y en a de partout, maintenant. Il y en a au moins une dizaine, alors qu'avant, il y en avait deux, trois, enfin... À part Gérard Maire et l'étrange festival à Paris, on ne trouvait pas grand-chose. Et maintenant, ça s'est énormément multiplié. Il y a le festival Fantasia au Canada qui a pris beaucoup d'importance. Et aujourd'hui, quand on va au marché du film à Cannes, tous ces gens, en fait, que ce soit des producteurs, des réalisateurs, des directeurs de la photo, qui ont tous évolué un petit peu de façon marginale, se regroupent. Et même si des fois, on se prend la tête entre nous, il y a une connexion qui s'est faite où les uns peuvent passer les films des autres, les uns peuvent bosser sur les films des autres. Donc après, il y a différentes échelles parce que Quand je parle de ce film, que c'est vrai qu'il n'est pas si connu, au bout du Shotgun, mais dont on a un peu
merci
parlé.
Merci de le reconnaître.
Désolé. Mais par exemple, c'est un film qui a un pied dans la production américaine et qui donc a fait quand même une sortie assez relativement importante. Récemment, par exemple, il y a eu aussi un film comme Theater of Bizarre, qui est un film à sketch d'horreur qui est sorti. Il y a une coprod française qui a travaillé aussi avec une prod canadienne et une prod américaine et qui sort dans un petit nombre de salles, mais qui quand même a son importance. Comme par exemple aussi les réalisateurs du film Amer, Katay et Forzani, qui eux-mêmes sont produits par Cognard, qui est un ancien François Cognard, qui est un ancien journaliste de Starfix, et qui pareil est souvent là au marché du film. Donc finalement, on se voit tous, on se croise tous là-bas, et puis il y a des connexions qui se sont faites. Ça fait des degrés, de moins en moins de degrés de séparation. Et bizarrement, alors qu'on voit de moins en moins d'éditeurs DVD indépendants au marché du film, il y a une espèce de connexion dans la production indépendante qui, j'ai l'impression, est en train de se faire. Donc il y a une forme d'évolution du marché qui commence justement par un certain nombre réduit de sorties de salles indépendantes, comme par exemple La Mer, qui est sortie finalement dans 4 salles à Paris, et puis qui au fur et à mesure avait fait le tour, qui s'est remboursé en faisant le tour des salles en France.
Et est-ce que cette entraide est la même entre les réalisateurs montpelliérains ? Parce que finalement, vous êtes tous là-bas sur le même bateau.
Alors, je pense que ça peut l'être. Le seul truc, c'est que moi, je suis très touché quand vous dites que je suis un jeune réalisateur, mais j'ai 35 ans, donc les gens que je connais, ils sont tous plus proches de mon âge. Ils ont entre 30 et 40 ans, quoi. Donc, nous, on se connaît depuis assez longtemps. Donc, on s'est connus quand on tournait des trucs en vidéo, à l'arrache, quand certains n'avaient pas encore monté leur boîte d'édition DVD, enfin, c'était encore très, très amateur en fait, à l'époque. Même si moi, je le reconnais, j'ai encore un pied dans l'amateurisme. Mais certains se sont vraiment professionnalisés. Donc les réalisateurs montpelliérains, moi je pense qu'ils peuvent intégrer ce système. Et on peut se soutenir aussi. La seule différence, c'est qu'ils sont plus jeunes et qu'ils connaissent moins un petit peu ce milieu. Mais quand je vois le travail que certains font, moi j'ai vu certains cours au Short Film Corner que j'ai trouvé vraiment très très bien. Et je pense qu'ils sont de Montpellier et je pense que justement ils peuvent profiter, à mon avis, ils peuvent profiter grâce à leur talent de cette connexion.
Et toi, tu as été présenté donc des longs. Est-ce que tu penses que par rapport au court-métrage, c'est-à-dire dans le Short Film Corner, est-ce que tu penses que le Short Film Corner est vraiment une occasion à saisir pour les réalisateurs ou est-ce que tu penses que c'est totalement vain et que ça ne sert à rien finalement parce qu'il y a quand même quoi, 3000, 4000 courts-métrages qui sont présentés ?
Alors, moi j'entends beaucoup parler justement, j'ai parlé avec Fabrice Lambeau qui est le producteur de Metaluna, donc producteur du film dont je vous parlais, Theater of Bizarre, et lui-même m'a dit, avant eux ils produisaient des courts, ils ont arrêté. Selon eux, il faut directement se lancer dans le long, c'est le seul format dans lequel on peut trouver encore un marché. Même si la sortie DVD un petit peu underground, elle est de plus en plus difficile, mais ça existe encore, ça survit. Même nous, on a réussi à vendre notre film Las Caress l'année dernière à plusieurs pays. Donc ça existe, mais ils pensent que le court-métrage, de par son format, pas spécialement le Short Film Corner, c'est un peu vain. On peut se faire repérer, c'est vrai qu'il peut y avoir un réalisateur de génie qui se fait repérer par une grosse boîte comme Canal+, mais c'est une chance sur un million, quoi.
Alors on peut demander à Arnaud, oui. Arnaud, donc en tant que directeur de salle, quand on va à Cannes, est-ce qu'on va au Short Film Corner, effectivement, ou enfin, qu'est-ce qu'on va voir comme film ?
Nous, on va faire notre marché, en fait. C'est bon là, je parle. Ouais. Ouais. Nous, on va essentiellement voir les films qu'on va programmer. Le seul intérêt de Cannes, c'est ça, c'est qu'on va pendant 10 jours. Là, moi, j'y suis resté que 8 jours, mais on peut se faire 2 semaines bien pleines. À raison de 4 films par jour en moyenne, on fait la programmation de nos salles pour, je sais pas, pour les 6 mois, les 10 mois qui suivent, quoi. Voilà, donc on va privilégier forcément les longs métrages, on va aller voir dans toutes les directions, dans toutes les sélections, les hors compétitions, quinzaines, critiques, de partout. De temps en temps des films du marché, parce que par coup de bol, par connaissance, par débrouille, on arrive à aller voir des films relativement ou improbables, ou qui sont très attendus, mais qui sont présentés nulle part ailleurs, et il faut vraiment jouer des coups de poudre pour y arriver. Enfin voilà, l'idée c'est d'aller voir le maximum de choses. Et pour jouer à ça, moi j'y vais pas, enfin par rapport à ta présentation, j'y vais pas en tant que directeur de salle en fait. Il se trouve que sur Utopia, au moment de Cannes, si je compte tous ceux qui ont fait le voyage, on devait être une quinzaine.
Voilà, parce qu'il y a plusieurs cinémas Utopia.
Utopia en France. Toute personne qui bosse du projectionniste au directeur de salle, au programmateur, enfin voilà, tout le monde a l'opportunité d'y aller en fonction des disponibilités, je ne sais pas, entre 3 jours, 2 semaines, en fonction des envies aussi, parce que c'est un sacré marathon de se taper dans son intégralité. Mais l'idée, nous, notre motivation première, c'est ça, c'est d'essayer de se fermer totalement sur l'ambiance générale du festival, d'éviter les putes, la coque et...
ah bon ?
Voilà. Parce que on commence le premier film à 8h le matin, qu'on termine le dernier à minuit tous les jours, et que dans l'intervalle, il faut qu'on en mate un maximum, quoi. Plus les distributeurs qu'on a toute l'année au téléphone, et que c'est aussi l'opportunité de rencontrer en chair et en os, même si tout le monde court tout le temps. Enfin, c'est voilà. On est vraiment au boulot, quoi.
Mais ça veut dire que vous partagez aussi les films, hein, entre cette quinzaine de personnes, oui. Utopia qui vient. Moi, je vais voir le film géorgien, moi, je vais voir le film en compétition, et
ainsi de
suite. Enfin...
On se les partage, et heureusement qu'on est des fois plusieurs à les voir, malgré tout. C'est-à-dire qu'on se connaît suffisamment les uns les autres pour savoir que tel film d'auteur français un peu exubérant, porté par un ancien jeune prodige du cinéma, qui va enthousiasmer certains, va pas forcément faire l'unanimité au sein de l'équipe. Enfin voilà, tous les films sont pas faits pour tous les publics, et comme nous, notre boulot, c'est d'essayer de faire en sorte que les films qu'on programme soient systématiquement défendus vraiment par les gens qui les ont vus. Il faut vraiment que chaque film, même au sein de notre équipe, rencontre son public, quoi.
Parce que oui, une des particularités d'Utopia, c'est cette fameuse gazette. Donc voilà, avec un parti pris, vous avez un véritable choix éditorial dans vos salles. Mm-hmm. Donc ça veut dire que vous défendez haut et fort dans cette gazette le film que vous avez vu.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc forcément, il faut que la personne qui va écrire le texte soit celui qui se sentira le mieux à même de faire venir les spectateurs dans les salles, parce qu'il va pouvoir crier son amour absolu du film qu'il présente.
Alors, c'est comme ça que ça se passe finalement, il peut y avoir un pour, un contre, et on laisse le pour s'exprimer.
Bien sûr, il y a jamais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un pour qui est suffisamment affirmé, le contre s'efface poliment, voilà, il passe son tour jusqu'à la prochaine, quoi. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que régulièrement, je te rassure aussi, régulièrement, et c'est encore arrivé là pendant le Festival de Cannes sur 2-3 films, il y a quelqu'un qui va sortir de la salle en disant « mais c'est inadmissible de montrer des films pareils, si on passe ça chez moi, je démissionne ». Et le film va passer, il démissionnera peut-être pas.
Et ça s'est réglé avec un apéro.
Ça se règle autour d'une bière,
voilà,
tranquillement.
Ce genre de chose.
Voilà, pas sur la croisette parce qu'on n'a pas les moyens, mais ça se règle autour d'une bière à l'appart après.
Ouais. Mais comment ça ? Mais Marie nous a fait
mais
un petit topo la semaine
voyons.
Dernière.
Oui. Non, bah
oui, mais c'est ça.
Les bons plans.
Alors on essaye bien, mais on n'est pas très très bon à ce jeu-là pour aller grappiller les invitations, les fêtes, la soirée, la villa des Inrocks là.
Oh, même pas. Vous allez juste au stand de international et là vous avez
oui,
des apéros,
non,
à
bien
toutes
sûr, mais
les
on peut,
heures de
on
la
peut
journée.
Aussi, alors on a un stand, il y a un espace qui est réservé aux exploitants de salles de cinéma, c'est magnifique, ça s'appelle le village des exploitants.
Exact.
Et je crois que c'est le dernier endroit au monde où on peut apprécier d'être quand on est à Cannes, quoi.
Moi j'ai pas pu rentrer là-bas, voilà. Par contre j'ai essayé mais j'ai pas réussi.
C'est pas grave.
Et après il n'y a pas de village des exploiteurs, non, pas encore.
Bah, c'est ça, hein, c'est le même en fait.
C'est un peu partout ça.
Alors, on va écouter donc un petit résumé de cette cérémonie de clôture, avec forcément le palmarès, un palmarès qui n'a pas été forcément très apprécié par la presse.
Mesdames et messieurs, la maîtresse de cérémonie de la soirée du palmarès, Bérénice Bejo.
Tais-toi, 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 tais-toi.
Finalement, de tout le festival, la plus grande diva, celle dont tout le monde aura parlé, celle qui aura fait courir les stars et pester les journalistes au rythme de ses allées et venues,
de qui parlez-vous ?
Aura été la pluie.
Comme c'est drôle les saisons. Avant il y en avait, maintenant il n'y en a plus.
Rien n'empêchera le cinéma. Et sûrement pas la pluie. Merci.
Ne vous dérangez pas, restez chez vous et regardez la télé car...
Il va pleuvoir.
Nous allons démarrer par le prix du court-métrage. Pour cela, j'ai le plaisir d'appeler sur scène le président du jury de la Ciné-Fondation Jean-Pierre Dardenne et Kylie Minogue.
Il y a fort à parier que si un cinéphile illuminé s'amusait à compter un à un tous les films produits dans l'histoire du cinéma,
comme c'est curieux, comme c'est bizarre,
les courts-métrages l'emporteraient haut la main. Comme le dit si bien Chaplin dans Monsieur Verdoux, le nombre sanctifie. Et c'est pourquoi je suis heureuse de féliciter le lauréat de cette très importante Palme d'Or, immense espoir pour un nouveau réalisateur.
Ça fait vedette sans faire prétentieux.
La Palme d'Or du court-métrage est décernée à C6 Bedenk, réalisé par Rezan Yesilbaz.
Je suis très énervé.
You don't speak English, you don't speak French.
Jüri üyelerine çok teşekkür ederim. Bu ödülü Dardenne'den almak benim için çok büyük bir ayrıcalık.
J'ai pas très bien saisi.
Monsieur le Président, à qui est attribuée la caméra d'or?
Beasts of the Southern Wild. Le battre du sud sauvage, le bon battre.
Il va me falloir être bref.
Thank you.
Voilà 11 jours que les membres du jury se concertent.
Enfin, mais de quoi est-ce que tu parles?
Et aujourd'hui, le président du jury va révéler leur choix. Merci d'accueillir Nani Moretti.
Nous sommes au bord de la panique.
Alors, pour remettre le prix du jury, j'appelle les comédiens Laura Morante et Patrick Bruel.
Quel est le point commun entre Eve de Mankiewicz et Police de Maïwenn?
Un verre d'eau!
Ils ont tous les deux reçu le très convoité prix du jury.
C'est une distinction qui va beaucoup compter dans le parcours du cinéaste.
Est-ce que vous réalisez un petit peu ce que vous dites, madame?
Quel est le prix du jury?
The Angels Share, The Ten Loach.
Et je suis trop agité pour parler français encore.
Je voudrais que nous exprimions notre solidarité à tous ceux qui, à cette époque difficile, résiste au programme d'austérité, de privatisation.
Il n'y a qu'un communiste pour dire ou penser ce genre de phrase.
Monsieur le Président, à qui avez-vous décerné le prix du scénario?
Au-delà des collines de Christian Munju.
First of all, it's good to be here.
Tout d'abord, ça fait plaisir de se retrouver ici.
Est-ce que c'est clair?
Quand on jette un coup d'œil, ne serait-ce qu'une seule seconde, à la liste des cinéastes récompensés à Cannes pour leur mise en scène, ça donne le vertige.
Je ne sais pas de quoi on parle.
Louis Buñuel, Robert Bresson, François Truffaut, Costa Gavras, Ken Loach, Nagisa Oshima, Pedro Almodovar, Nani Moretti.
John Boorman, Martin Scorsese, Tony Gatliff, Ethan Cohen et Joël. Et Nicolas Winding Refn.
Obéissant à un sentiment de pitié, nous décidons.
Carlos Reigadas.
Je voudrais remercier le public qui vient le voir.
Mais pourquoi êtes-vous dans un pareil état?
Et aussi les membres de la presse qui n'ont pas arrêté de me flatter depuis 3 ou 4 jours.
Il n'y a pas de problème!
Monsieur le Président, quel est votre prix d'interprétation masculine?
Oh, c'est très simple, je vais vous faire part de mes conclusions.
Mads Mikkelsen pour Yachten de Thomas Vinterberg.
Excuse-moi, je ne parle pas français. Oui, quand je parle, mais ce n'est pas maintenant.
C'est là l'origine de vos malheurs.
Monsieur le Président, à qui avez-vous décerné le prix de l'interprétation féminine?
Christina Flutur et Cosmina Stratan.
Que personne ne connaît.
Pour Au-delà des collines.
It's thrilling.
C'est incroyable.
Si j'en crois ce qui est écrit dans le rapport que j'ai sous les yeux.
Nous descendons à peine de l'avion.
Le Grand Prix nous a déjà emportés au Burkina Faso, en Corée du Sud, en Hongrie, en Géorgie, en Suède, en Grèce, en Finlande.
Tu sais que tu m'agaces.
Autant de contrées cinématographiques pleines de surprises.
Les vues sont intéressantes.
Et cette année, le Grand Prix va nous conduire
Monsieur le Président, où va-t-il nous conduire ?
Dangereux, cette histoire.
Reality di Matteo Garrone.
Merci, merci.
Il manque un détail.
Ah, le festival. Ciao, ciao a tutti, grazie.
Et enfin, voici la Palme d'Or.
Bien, ouvre tes oreilles.
Et pour la remettre, j'appelle Audrey Tautou et Adrienne Brody.
C'est ridicule, si on laisse deux individus de ce genre l'un après de l'autre, on a aussitôt une tragédie.
Bonsoir.
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 Il y a des hommes.
Alors, il va falloir en venir aux explications.
Avec un H majuscule, je précise. Qui sont nés pour faire du cinéma. Qui ont le talent contagieux. Qui font des films qu'on n'oublie pas, des films qui traversent les années sans prendre une ride, et dont la simple évocation provoque en nous un enthousiasme et une excitation toujours intacte. C'est pas tous les dimanches qu'on a le bonheur d'annoncer une nouvelle inoubliable et par elle, de faire taire le doute, la peur de décevoir même parfois, qui accompagne les plus grands. Pour l'occasion, je ne suis pas venue toute seule. Je porte une superbe robe, enfin, je trouve.
Et elle a un cerveau.
Mais surtout,
non.
Juste en dessous, bien caché,
je refuse de le croire.
Les plus belles rencontres et les plus belles expériences que j'ai vécues grâce au cinéma. Pour ce 65e Festival de Cannes, je suis particulièrement émue d'être parmi vous pour remettre la Palme d'Or du film qui aura su nous montrer la meilleure façon de marcher.
Woody Allen once said,
Woody Allen a dit un jour, je ne veux pas atteindre l'immortalité grâce à mon œuvre, je veux atteindre l'immortalité en ne mourant pas.
Tu trouves pas ? C'est marrant ? Hein ?
Dis-moi ce qui est marrant !
Monsieur le Président, qui a obtenu la Palme d'Or ?
J'attendais ce moment avec impatience.
En rappelant la contribution fondamentale de ces deux acteurs principaux, Amour.
C'est une blague ?
De Michael Haneke.
Ça se veut une plaisanterie ou quoi ? C'est pas drôle.
Qu'est-ce qu'on dit ?
Merci beaucoup.
Je t'en prie, cache ta joie. Enfin, c'est pas grave.
Le plus important, c'est mon très très grand merci, mon profondément merci à mes acteurs géniaux qui ont fait ce film. C'est leur film, c'est eux qui sont l'essence de ce film. Merci beaucoup.
Tout ça, c'est du cinéma.
J'étais infiniment heureuse de travailler avec Michael Haneke. Je tiens à dire aussi que notre métier, je dirais plutôt notre action, c'est un partage de vie. Voilà, alors donc nous le partageons avec tous. Garder ça pour soi tout seul, ça manquerait de charme.
Ah !
Ça me touche beaucoup. Je voudrais partager cette palme. Un quart.
Vous avez énormément d'imagination.
Un quart pour la productrice. Un quart pour Michael, on dit, je crois.
Michael Haneke.
À mon sens, qui est le plus grand metteur en scène vivant. Et je voudrais donner le cinquième quart.
Vous rendez-vous compte que vous êtes dans l'absurdité totale.
À l'équipe du film. Non, le cinquième à l'équipe du film. Et le sixième quart à ma moitié.
Ah mon Dieu, mais c'est terrifiant.
Ce n'est pas fini.
Je voudrais dire un petit poème de Prévert, très court. C'est... Et si on essayait d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple.
C'est tout, je vous remercie.
Merci.
Beaucoup d'applaudissements quand même pour cette Palme d'Or donc décernée au film de Michael, voilà, il faut retenir la leçon, Michael Haneke.
Standing ovation même, ce qui est quand même assez rare pour une Palme d'Or. Ouais. Au moins là, elle a fait l'unanimité. Et d'ailleurs,
ça s'est mieux passé que pour Pulp Fiction, c'est ça que tu veux dire?
Oui. Par exemple, et pour Piala aussi.
Effectivement.
Mais en même temps, c'est ce que je disais la semaine dernière quand je chroniquais Indian Palace. Maintenant, il est temps de faire des films pour les vieux avec des vieux. Et c'est ce que Haneke a fait. Parce qu'ils ont quand même une moyenne d'âge de 82 ans, je pense, entre lui qui en a 75 et ses acteurs qui en ont 85.
Mais Trintignant
avait pas complètement dans l'air du temps.
Trintignant n'avait pas l'air très très frais. Enfin, on l'a entendu dans le montage avec ses trois quarts et ses sixième quarts de moitié. Enfin, c'était quand même assez étrange. Alors, on va écouter une petite musique, extraite du film de Rouillé d'Os qui n'a rien eu. Voilà, à la surprise générale. Love Shack B-52s, extrait donc de la bande originale du film de Rouillet-Dos, qui n'a rien obtenu à Cannes. Alors on va parler vite fait du palmarès, notamment avec toi Arnaud, qui a vu une partie des films. Enfin, t'as rien vu du palmarès, sauf le Ken Loach.
Sauf le Ken Loach, que je confirme, est très très bien, qui est pas le... Enfin, tout le monde a fait un petit peu la fine bouche. Je vais juste revenir là-dessus, parce que c'est un petit peu agaçant. Tous les ans, on s'enthousiasme pour une sélection, on fait la fine bouche sur une sélection, on trouve que le palmarès, mauvais, pas mauvais. Très sincèrement, des échos que j'ai eu en tout cas, et si je me fais l'écho de tous mes petits camarades d'Utopia, tous les films qui ont été retenus, ils figuraient en tout cas dans le top 10 à peu près de toute l'équipe. Donc c'est pas a priori franchement honteux. Et le Ken Loach, c'est une comédie anglaise génialissime. Et voilà, et ça fait du bien. Et que, effectivement, Ken Loach, c'est plus prenant quand il nous fait vibrer, pleurer comme des gosses dans Sweet 16. Il n'empêche que quand il raconte l'histoire d'un gang de pied-niquelés adolescents qui vont dévaliser une distillerie de whisky en Écosse, putain, ça fait du bien, voilà.
Et le Regadas fait du bien aussi, j'ai entendu dire que c'était Joker. Juste abominable.
Eh bien écoute, j'ai des fans.
D'accord,
dans ma manche. Voilà.
Il paraît qu'il y a des paysans qui s'arrachent la tête
à
main
nue.
Ouais,
mais faut pas raconter la dernière scène du film, c'est très mal ce que
t'es
en train
de
faire.
Pardon, voilà. je ne savais pas vraiment, j'ai pas fait exprès.
Ouais, c'est une spécialiste de l'éventement.
Après, également, faut aussi voir que Cannes, on met en lumière une quinzaine de films qui se trouvent être la sélection officielle. Il y en a quand même beaucoup plus qui sont projetés pendant les presque deux semaines que dure le festival, et que nos coups de cœur absolus, ceux qui nous font vraiment vibrer desquels on repart avec vraiment des étoiles dans les yeux, c'est rarement la sélection officielle. Tu vois, l'année dernière, La guerre est déclarée, c'était la semaine de la critique. Enfin, tous les ans, Les beaux gosses, c'était à la quinzaine, il y a 3 ans. Tous les ans, il y a des films comme ça qui sont pas forcément des films qui vont révolutionner le cinéma, mais qui font vraiment du bien. Et cela, on les trouve ailleurs que dans la sélection officielle, 9 fois sur 10. Quoi.
En même temps, avoir un Ken Loach pour la énième fois, et puis s'apercevoir qu'il y avait Carax qui fait pas énormément de films non plus.
Mais je suis désolé, le Carax, il est peut-être super intéressant quand on s'intéresse à Carax et au nombril de Carax. Il est très beau esthétiquement, j'en dis ce qu'on vient pas. Il est juste d'un ennui mortel. C'est tout, voilà. Après, mais j'en ai aussi dans ma manche qui adore. Hein. On a eu des discussions. C'est entre ça et le Cronenberg, on s'est engueulé une paire de fois. Quoi. Mais moi, le Carax, il est brillant. Simplement, tout ce qu'il te raconte, c'est que le cinéma est en train de mourir et que le métier d'acteur est en train de mourir. C'est ça hein, le sujet de sa série de sketchs. Que lui, il a trouvé sa forme, qui est pas une forme longue, mais qui est une forme courte. On l'avait vu dans le segment qu'il avait fait pour le film sur Tokyo. Donc Merde. D'ailleurs, la reprise de Monsieur Merde, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux dans son.
Il l'avait prévu, ça.
C'était prévu, mais c'est raté. Et voilà, et une fois qu'on a fait ce constat que Denis Lavant est un acteur génial qui peut tout jouer et que Léos Carax est un cinéaste génial qui peut tout tourner, sauf que Denis Lavant ne tourne pas tous les rôles dans tous les films et que Léos Carax ne réalise pas tous les films qui sortent, voilà. Mmh. Mais c'est beau, c'est hyper agaçant, c'est très séduisant, mais voilà, moi je... Ça me intéressant, c'est du film de festival. Quoi.
Mais il y a des grands absents de Cannes, je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps, c'est que Kubrick...
Non, excuse-moi, je m'énerve parce que la critique s'est enflammée sur le Carax. Et ça
complètement.
Mais dès que t'as un cinéaste français à Cannes, d'un seul coup, il faut que la panne soit française parce qu'on est français. Alors, il y a Audiard, il y a Carax, alors pourquoi que ni Audiard ni Carax, ils ont eu la palme? En gros, c'est ça ce qu'on a entendu là pendant 48
Parce que le palmarès était supposé
pénible,
être radical. Hein.
Oui,
donc, ils ont justement voulu supprimer tous les favoris par rapport à la presse.
Regadas, c'est pas radical.
Il paraît que c'est surtout nul, mais bon.
Mais
après...
C'est radical, après. Voilà, visiblement, ça peut se discuter.
Bon, en même temps, oui, des films radicaux. Mais oui, jamais de Kubrick à Cannes, par exemple. C'est quand même étrange,
c'est
non?
C'est peut-être bien pour Kubrick de jamais
bien,
être
ouais.
à Cannes.
C'est possible.
En fait.
Ouais. En tout cas, il y a une petite polémique, hein, puisque Nanni Moretti était président de ce jury, et puis avec le distributeur Le Pacte, il se trouve qu'il y a une bonne partie du palmarès. Voilà, qui revient à la distribution.
Bien sûr, après le problème qui s'est posé avec Le Pacte, c'est que Le Pacte a été fondé par un monsieur qui s'appelle Jean Labbadie, qui a un nez incroyable, et c'est pas le palmarès qui était distribué par Le Pacte, c'était quasiment toutes les sélections confondues. Mmh. C'est-à-dire que t'as de tous les films, là, de je sais pas combien de films qui sont de longs métrages qui ont été projetés dans toutes les sélections confondues, t'en avais au moins la moitié qui, à la base, était coproduit ou distribué par Le Pacte. Voilà, donc après qu'on en retrouve une majorité au palmarès, c'est pas totalement inconcevable. Enfin,
donc, fausse polémique.
Je trouve ça limite ridicule. Ouais, c'est vraiment pour expliquer pourquoi Moretti a pas donné la palme à Léo Scarrax. Tu vois.
En tout cas, il a donné aussi le prix. Alors, lui, il a eu le prix de la.
Il y a un absent, c'est Mud, le film de Jeff Nichols. Voilà. Qui, à mon avis, était peut-être le film qui aurait mérité un petit quelque chose, parce que c'est un cinéaste naissant, c'est son troisième long métrage, et qu'on voit grandir, qu'on voit se déployer, et là il en est à un stade un peu élégiaque, enfin, c'est magnifique.
Et ben il attendra.
Il attendra un petit peu. Non, mais après, le film marchera, et c'est l'essentiel.
On passe à la première chronique de ces films issus du Festival de Cannes.
Cinérama.
Moi, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, Fourrière et compagnie ?
Sur Divergence FM.
Et on commence avec Cosmopolis. Alors précisons que quand j'ai été voir le film, il y avait deux petites vieilles qui sont passées devant moi dans la salle et qui ont dit « Oh, mais si c'était à Cannes, c'est que c'est forcément bien !» Voilà. Alors Robert Pattinson, qui devait bouillir d'envie après Twilight de jouer dans un vrai film, trouve ici la rédemption avec Cronenberg, le même qui, quelques années plus tôt, a sauvé Viggo Mortensen du Seigneur des Anneaux. Après son emblématique rôle de vampire, qui aura fait crier plus d'une collégienne, Robert joue à nouveau un personnage aux dents longues, mais qui aurait davantage la soif de l'or que celle du sang. L'analogie du vampire n'est finalement pas si anodine, puisqu'il interprète ici un jeune trader milliardaire, Eric Pecker, calculateur et paranoïaque, qui vit ses dernières 24 heures dans un New York en pleine apocalypse, à moins que ce ne soit son propre empire financier qui ne s'effondre.
Si fortuné et si désirable. Alors, combien de milliards vous représentez tous les deux ?
Je vais aller chez le coiffeur.
Tu as besoin d'une coupe ?
De tout ce que tu pourras me donner.
Tant de science et d'ego.
Un mouvement du Yuan pourrait nous écraser en quelques heures.
Mais nous voulons toujours ce que nous voulons. Nous voulons aller chez le coiffeur.
Tu as besoin de t'enflammer, c'est ça ? C'est ta façon d'être.
Ça t'arrive jamais, des fois, de pas comprendre tout à fait ce qui se passe.
La situation est instable.
Un spectre hante le monde !
Quelqu'un vous poursuit toujours. Il est dans le coin. Et il est armé.
Je vais avec. La continuité logique de ce business, c'est le meurtre.
C'est intéressant d'être près d'un homme que d'autres veulent tuer.
Je me sens libre d'une façon que j'avais encore jamais connue.
Libre de quoi ?
Une intrusion est déjà en cours.
Vous êtes une pièce d'exception! Seul, vous faites pas 5 mètres quand il fait nuit. Ils vous descendent direct.
Scandaleux, mec. Mourir est scandaleux. Pourtant, on le fait tous.
Toi qui parles de liberté. C'est ton jour de chance.
Fais-moi découvrir autre chose.
Des personnages surgissent de toutes parts, semblant faire des caméos dans une série télé, tant leur utilité laisse perplexe. Juliette Binoche en maîtresse, Mathieu Amalric en justicier, usant de tarte à la crème comme arme de terrorisme, et Paul Giamatti en laissé pour compte de la toute-puissance capitaliste. Le film se résume ainsi à un enchaînement de scènes sans évolution notable, chaque rôle secondaire discourant face à Eric de la vie, de l'argent et du chaos. Dans un monde où tout est éphémère, l'amour, la vie, la terre, moi, surtout moi, Cosmopolis apparaît dans un premier temps comme faisant preuve d'une conscience absolue de ce qui nous entoure. Totalement vain, donc complètement indispensable, le film se donne des airs de pamphlet nihiliste qui séduit dans un premier temps. Eric Pecker n'est pas sans rappeler les personnages de Bret Easton Ellis, en particulier le Patrick Bateman de American Psycho, déconnecté du monde par l'argent et la vacuité d'une existence désincarnée. Il fallait du talent, c'est vrai, voire du génie pour adapter à l'écran ce huis clos. Précision, la plupart des scènes se passent dans une limousine et l'on découvre justement que l'on peut y pratiquer quantité d'activités, du cours de philosophie aux séances d'UV, en passant par le dépistage du cancer de la prostate. Heureusement, Cronenberg avait de l'inventivité en réserve après s'être essayé au classicisme dans A Dangerous Method. Trouvant toujours l'angle juste pour filmer ses personnages désaxés, il crée une ambiance semblable à nul autre pareil, sans pour autant être à son meilleur niveau, comme en témoigne une dernière partie proprement interminable. À Cannes, le film a partagé, certains y voyant un brûlot visionnaire, d'autres déplorant une inertie agaçante. Voici donc ma conclusion, faite à la manière des journalistes cannois, c'est-à-dire avec le maximum d'adjectifs et le minimum de sens. Cosmopolis est un film cérébral et névrotique, viscéralement implanté dans la conjoncture monétaire actuelle. Une plongée abyssale et vertigineuse par un cinéaste majeur. Une dénonciation implacable et mortifère du monde capitaliste phagocyté par les ambitions hypertrophiées des puissances financières. Sur un ton technocynique qui sied à la contemporanéité du sujet, emporté par le formalisme rigoriste de ses dialogues pléthoriques, cette œuvre conceptuelle est, nonobstant tout, trop surfaite pour nous combler. Plastiquement ostentatoire, mais pas assez habité ni abouti, Cosmopolis ne nous laisse qu'une vague impression de la grande réussite esthétisante et virtuose qu'il aurait pu être.
Oula, c'est
si avec ça, j'ai pas une accréditation pour être journaliste à Cannes l'année prochaine, moi je sais plus quoi faire. Hein, franchement, j'aurais tout donné. D'ailleurs, Vincent,
oui.
Tu as vu également Cosmopolis.
Oui.
Et tu as eu au sujet du film une phrase un petit peu moins poétique. Tu m'as dit « Autant pisser dans un violon, au moins ça fait de la musique ». Est-ce que tu pourrais... Tu m'as dit ça dans l'intimité, c'est vrai, mais est-ce que tu pourrais étayer ton propos quand même ?
C'est un mail privé, effectivement. Non, j'ai trouvé ça extrêmement bavard avec ce personnage tête à claque. Donc effectivement, alors il parle avec tout un tas de personnes. Moi, ça a fini par me lasser complètement. Alors, il y a des choses amusantes, hein, comme cette espèce de, effectivement, détection du cancer de la prostate, où il s'aperçoit que finalement...
Ça dure très longtemps, cette scène.
Ça dure très très longtemps, mais il en joue. Enfin bon, ça encore, c'est le moment un peu jouissif. Donc il y a quelque chose... Non, si, entre guillemets.
Si l'on veut.
Donc il y a quelque chose sur la symétrie. Alors ça revient souvent chez Cronenberg, les jumeaux de faux semblants, la mouche, une fois qu'on est avec la mouche, ça se passe pas bien, enfin voilà. Il y a des thèmes récurrents de Cronenberg, seulement là, j'ai trouvé ça, mais un peu vain, un peu trop bavard, voilà. Après, la mise en scène, elle est très, 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 très classieuse. Le son, il y a une exploitation du son qui est très, très bonne. Une énorme vide hein, dans cette voiture, dans cette limousine.
Qui est coupée du monde,
qui est vraiment coupée du monde.
Qui n'a aucun son.
Mais voilà, moi ça m'a pas emballé. Et Arnaud, je crois pas non plus.
Ce que Cronenberg a fait de mieux cette année, c'est de proposer à son gamin de venir présenter son premier film dans la sélection Un certain regard. Donc le fils s'appelle Brandon Cronenberg, son film s'appelle Antiviral. Le titre est tout un programme, ça rappelle les premiers films de son papa, sortira en salle, c'est absolument pour le coup réellement jouissif, jubilatoire dans tous les sens du terme. Voilà, après non, c'est beau, il est un très bon chef opérateur,
oui,
Cronenberg.
Oui. Tout ça est bien, mais on le savait qu'il savait.
On attend son prochain film avec impatience. Là, ça en fait quand même deux d'affilée qui sont sympathiques. Voilà.
Bah, celui sur Jung, je le trouvais quand même un peu plus
c'était
intéressant.
C'était aussi lent quand même.
Ah bah, oui, mais c'est classique aussi. Enfin,
c'est classique.
Voilà, c'est une pièce de théâtre.
François, vu, pas vu?
Non, pas vu.
Ok, tu vas jouer avec nous alors sur le blind test.
Alors, je connais surtout les premiers Cronenberg.
Ah ben voilà, ça tombe bien.
Je n'y arrive pas avec de la chair. Il semble que ça ne marche qu'avec les objets et pas avec ce qui est vivant. Oh, c'est sûrement de ma faute.
Pourquoi?
Les ordinateurs sont stupides, ils ne savent que ce qu'on leur dit. Il faut que j'en sache plus sur la chair, il faut que j'apprenne.
Alors, ça a été trouvé parce que c'est facile.
La mouche, voilà.
Et en même temps, ça pourrait être n'importe quel Cronenberg.
Exactement, c'est aussi ce que je me suis dit.
C'est vrai, c'est vrai.
On reconnaît le doubleur de Jeff Goldblum, donc...
Il y a ça aussi. Bah oui, là, je suis obligé de passer des VF. Hein. Ouais. Alors, deuxième extrait.
Alors, on a joué au grand chef, le naze.
Quoi? Non.
T'es le héros du coin. La superstar de l'école. Hein? Le héros qui sauve le match à la dernière minute. Pas vrai?
Ça va, Bobby. C'était qu'un jeu. Une partie de baseball à la con.
Tu me traites de con, Minus?
Non, j'ai dit une partie de baseball à la con.
Non, j'ai dit une partie de baseball. Écoutez tous la petite fiotte!
Hé. Hey, c'est ça, t'as raison. Je suis petit et je suis une fiotte. T'as découvert le poteau rose.
Viens te battre, poule mouillée. Allez, viens!
Mais pourquoi faire, hein? C'est vrai, t'as gagné. T'es fort, t'as gagné. Tu as su établir ton statut de mâle alpha. Et tu as établi mon inutilité. Alors, user de violence sur moi me semble peu nécessaire et cruel. Tu crois pas?
Viens te battre, pauvre pédé!
Tu devrais plutôt me traiter de sale petite fiotte de ta mère.
Joli mot, fiotte de ta mère.
connard.
Alors, petite séquence qui a son importance, a été trouvée par François en premier.
History of Violence.
Voilà. Donc c'est le fils
de Viggo Mortensen.
De Viggo Mortensen, donc qui oppose à l'espèce de violent du lycée, enfin une espèce de réflexion, enfin voilà, se battre c'est pas bien, et puis forcément ce personnage va changer au cours du film. Donc là j'étais obligé de prendre ça, Marine. Parce que tu m'as dit que tu avais surtout vu Cronenberg à partir d'History of Violence.
Je me rappelais surtout de Viggo Mortensen dedans. Et
ouais, mais ça aurait été trop simple.
Je me rappelais même plus qu'il avait un fils.
Ça aurait été trop simple si j'avais pris Viggo Mortensen. Un nouvel extrait.
Ils viennent de l'inconnu. Et ils sont là. Ils se cachent, prêts à frapper. Vous pouvez sentir leur présence autour de vous. Jamais encore vous n'avez approché d'aussi près les frontières de la terreur. Jamais encore vous n'avez été confronté à quelque chose d'aussi surnaturel, d'aussi étrange, d'aussi angoissant. Jamais avant cet instant.
Es-tu prêt pour moi, Franck? As-tu réalisé que ta femme est devenue une personne bizarre, en plein milieu d'une très étrange aventure?
Je veux aller avec toi n'importe où.
Tu en es sûr?
Oui.
Alors regarde.
Alors.
La bonne bande son bien insupportable.
Alors c'est une bande annonce effectivement qui fait référence au premier film, un des premiers films de Cronenberg. François, ça a été trouvé.
Chromosome 3.
Voilà, après avoir cité les deux autres.
Ouais, frissons, j'avais cité d'abord Rage et Frisson. C'était au moins un de cette période.
Alors ça va pas être plus simple. C'est encore une bande annonce volontairement tapageuse.
10 secondes. La douleur commence. Dans votre chair. Dans votre cerveau. 15 secondes. Vous étouffez. La douleur est intolérable. Car leur pouvoir est démoniaque. Ils contrôlent votre esprit. Ils manipulent votre corps. Ils prennent possession de vous jusqu'à complète destruction. 20 secondes, vous explosez. Vous allez vivre une expérience des plus insolites. Dès maintenant, vous ne serez plus en sécurité. Leurs pensées peuvent tuer.
L'emprise monstrueuse de la parapsychologie. Une organisation à détruire, impitoyablement. Un film angoissant à voir absolument. Ils détiennent le plus terrifiant pouvoir pour vous détruire.
Voilà, j'ai préféré prendre encore une bande-annonce plutôt qu'un extrait. Donc ça a été encore trouvé, mais là, dès les deux premières secondes.
C'était Scanners, donc, voilà. avec le génial Michael Ironside.
Oui, effectivement, qui est un des mauvais Scanners, donc qui sont des gens qui sont capables de... Eh bien de
faire exploser la tête par
voilà.
La pensée.
Et il y a une grande une scène incontournable du cinéma quand même. C'est la première explosion de tête aussi bien filmée.
Aussi bien
mise
en scène. Il y a aussi, juste une parenthèse, il y a une actrice que j'aime beaucoup dedans, qui pourtant n'est pas très connue et après a une carrière un peu moins brillante. C'est Jennifer O'Neill en fait, qui avait joué dans Un été 42 et qui avait aussi joué dans L'Emmure vivante de Lucio Fulci. Donc... voilà, c'est le premier rôle féminin de Scanners et je trouve que cette actrice est particulièrement belle et charismatique dans ce film, quoi.
Et ça, c'était le dernier film vraiment produit par l'industrie du porno, non, je crois.
Alors, c'est surtout ces deux premiers films, même ces trois Chromosome 3, oui, il était produit par par une boîte de production porno qui était dirigée par, roulement de tambour, Van Reitman, en fait, qui plus tard est devenu le réalisateur des SOS Fantômes. Donc, c'est pour ça que dans Rage, il y avait la très jolie et canadienne aussi, Marilyn Chambers.
Qui était
une actrice porno qui a été très connue avec le film Derrière la Porte Verte. Donc,
Allez, encore, c'est l'avant-dernier extrait.
Nous allons prendre un petit goûter et après, ok sur glace.
Non, écoutez-moi, annulez le match, il va y avoir un accident. Annulez le match.
Soyez pas grotesque, on a toujours patiné sur ce plan d'eau jusqu'en mars. Mais enfin, Johnny, qu'est-ce qui vous prend?
Vous voulez tuer votre fils?
J'ai peur de ce qu'il dit.
Mais vous êtes inconscient, quoi? Allons, n'aie pas peur, va manger tes gâteaux.
Vous ne savez pas qui je suis?
Oh, mais si je sais qui vous êtes, est-ce que vous seriez là auprès de mon fils si j'ignorais votre profil? Mais c'est le professeur que j'ai engagé, non le champion de la voyance. Et toi, ne discute pas.
La glace, elle va se briser!
Alors, ça a été encore trouvé. Vas-y, François.
Dead Zone, adapté du roman de Stephen King, avec Christopher Walken et Martin Sheen, entre autres.
Qui joue le méchant politicien. C'est une...
Le méchant républicain, mais c'est un pléonasme. Ouais. Mais voilà.
Donc, voilà, un film un peu à part, moi, je trouve, dans la filmographie de Cronenberg, mais on n'a pas le temps d'en discuter spécialement. Donc, on va passer au dernier extrait.
Beverly.
Quoi?
C'est un nom de fille. Pourquoi ta mère t'a donné un prénom de fille, je me demande?
C'est pas un nom de fille, ça s'écrit pas de la même façon.
Ah ouais, mais c'est quand même un nom de fille. Ton frère, il a un prénom de fille, lui aussi? Marianne, avec un seul N, et sans E?
Qu'est-ce que tu insinues? Que je suis pédé, je sais pas? Que ma mère voulait des filles? Rien à foutre, putain! Psychanalyse de passard!
Il est très très énervé. Donc il est question du prénom, il a un frère, prénom féminin pour le coup, c'est ambivalence, faux semblant. Ouais. Voilà, avec les deux les deux gynécologues qui s'échangent les vies, les compagnes et ainsi de suite. Et voilà.
Et les ustensiles de gynécologie.
Voilà, avec
c'est pas très hygiénique.
Ce fameux bœuf qui effectivement, enfin transforme
ses formes intéressantes.
Il transforme ses instruments donc gynécologiques en espèce de, enfin plutôt œuvre d'art quoi. Enfin voilà.
Censé marcher. Hein.
C'est censé marcher, sauf que voilà. Et à noter que l'actrice qu'on entend ici est dans le film, dans la fiction, une actrice très très connue, mais qu'elle a un problème, c'est qu'elle est triphide. Donc il a trois ovaires, oui, voilà, oui. Oui, non, oui, ça c'est le côté mutant hein, chez Cronenberg, il y a toujours un petit aspect, voilà, un petit dérèglement quand même. Ainsi s'achève ce blind test. Merci d'y avoir participé et ouais, je crois que
j'ai été assez exceptionnel, je pense.
Oui, ouais, il va falloir que tu révises ton Cronenberg, ouais. Avant History of Violence.
Moi, je m'y intéresse qu'à partir de Viggo Mortensen, pas avant. Voilà.
Allez, tout de suite. C'est Cinérama qui continue sur la route.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule,
Cinérama,
je suis allergique,
sur Divergence FM. Vivre vite, mourir jeune et laisser un beau livre, c'est le leitmotiv de Soul Paradise Alter Ego de Jack Kerouac dans cette adaptation tant attendue du mythique Sur la route. Les droits du roman acquis il y a 30 ans par Coppola ne seront jamais utilisés tant l'ouvrage est réputé inadaptable et c'est finalement à Walter Sales qui s'est déjà fait connaître dans le genre du road movie avec Carnet de voyage qu'incombera la lourde tâche de mettre en image les dérives de la Beat Generation.
J'ai rencontré Dean peu de temps après la mort de mon père. J'étais un jeune écrivain qui voulait aller de l'avant. Dean, lui, fonçait tête baissée dans la société. Il venait d'épouser une nana de 16 ans qui s'appelait Marie-Lou.
Où est-ce que tu trouves tous ces gens fabuleux? J'en ai jamais rencontré des comme ça.
Sois bien sage, hein, suis mon exemple.
Avec Dean Moriarty a commencé la partie de ma vie qu'on pourrait appeler ma vie sur la route.
Alors tu t'es enfin décidé à prendre la route.
Il ne se sent aucune responsabilité envers ses congénères.
Il suffit d'être lui-même pour donner du plaisir aux autres.
Il donne des illusions. C'est un escroc.
Je ne peux jamais te revoir.
Il y a quelque chose qui cloche chez moi. Je fais tous ces trucs stupides, j'ai des idées tordues tout le temps. Mon intérieur, je brûle, tu comprends?
Je les ai suivis en traînant les pieds, comme je l'ai toujours fait quand les gens m'intéressent. Parce que les seuls qui m'intéressent sont les fous furieux. Ceux qui ont la fureur de vivre, la fureur de dire, ceux qui veulent tout en même temps, ceux qui ne bâillent jamais et ne profèrent jamais de banalité, mais qui brûlent, brûlent, brûlent comme des chandelles romaines dans la nuit.
À l'inverse de la série Mad Men qui nous donne une version des années 50 sur papier glacé,
Sur la route, sans la bière chaude et la clope sans filtre, l'atmosphère moite de l'époque étant rendue avec une justesse sans fioriture. Les gens tremblent, transpirent et se consument avec une rage égale à leur appétit de vivre, s'inspirant des solos de jazz pour improviser leur propre existence et utilisant le sexe et la drogue comme moyen pour la ressentir plus intensément. La levée de boucliers provoquée par le film à Cannes fut aussi démesurée que l'attente précédant la sortie de Sur la route. On l'a ainsi jugé ennuyeux, plat et terne, avec une radicalité aveugle. Sur la route n'est sans doute pas à la hauteur de sa version littéraire, mais parvient à dégager quelque chose de sensuel et de surprenant. C'est un film qui érige en exemple des personnages libres au dernier degré au lieu d'en stigmatiser les excès. Walter Sayles est un cinéaste beaucoup moins conventionnel qu'il n'y paraît, mais son talent se dissimule dans les détails et sa narration, apparemment en roue libre, n'est pas faite pour nous rendre réceptifs à son style. Il sait pourtant travailler la lumière et les couleurs de façon à rendre palpables les errements des personnages et il dispose de suffisamment de respect envers le spectateur pour lui laisser voir le sublime de ses images sans l'assommer de démonstrations visuelles. Le film ne carbure certes pas à la benzédrine comme ses héros, mais il dispose d'un trio suffisamment torride pour en habiter chaque plan et faire avancer l'histoire à 100 à l'heure. Sam Riley, anciennement, interprète du chanteur des Joy Division dans le film Control, prête ici ses traits au narrateur avide de nouvelles expériences face à Kristen Stewart et à Gareth Edlund, totalement habité par son personnage épicurien et névrosé qui emporte tous les autres dans son sillage, sans oublier les seconds rôles peaufinés jusqu'au moindre détail, par leurs interprètes Viggo Mortensen, Kirsten Dunst et Amy Adams. Malgré leur passé difficile, Gareth Edlund a quand même tenu le rôle principal de la dernière version de Tron, tandis que Kristen Stewart a roulé des pelles à Robert Pattinson pendant les 5 volets de Twilight, les deux acteurs s'en sortent avec brio. Kristen Stewart sert la juste dose de provocation pour faire oublier ses précédents rôles de nunuche abstinente, tandis que Gareth Edlund, constamment sur le fil, nous livre une interprétation si séduisante que l'on sentirait presque planer l'ombre de James Dean. Sur la route est un film cru au sens pur du terme, que l'on pourra juger ennuyeux car il ne contient guère de twist, de climax ou de running gag, mais a-t-on vraiment besoin d'esbroufes scénaristiques quand les images boulent déjà d'elles-mêmes ?
Alors, on est obligé de faire vite, par contre, Arnaud...
Je pense qu'Arnaud n'est pas d'accord avec moi.
Juste, je confirme.
30 secondes.
Plater n'est ennuyeux, je confirme. À mort, par contre, il y a du beau gosse.
Il n'y a pas que ça, il y a du charisme aussi et du talent.
D'huître.
Alors, on va conclure cette émission un peu spéciale Cannes avec toi, François, d'ailleurs. Donc, tu es revenu de Cannes avec quoi, en quelques mots ?
J'ai co-réalisé un film qui a été produit par Le Chat qui fume et qui s'appelle Las Caresses. Et en fait, Le Chat qui fume avait déjà trouvé quelques pays qui l'ont acheté, pas mal de pays nordiques. Et en fait, moi, j'ai trouvé des pays qui voulaient l'acheter, des distributeurs américains et anglais principalement, parce qu'on n'avait pas encore de touche sur le territoire anglo-saxon. Et j'ai réalisé un court en solo l'année dernière qui s'appelle Die Die My Darling. Un petit film d'action avec un zeste très timide d'érotisme. Et finalement, ce film, je l'ai présenté à des revendeurs internationaux qui sont intéressés pour en faire un long, en fait. Donc, pour en financer une version longue.
Et donc là, le financement, c'est quoi ? Combien ? À peu près ?
Alors,
sur quoi tu peux tabler ?
Ça, justement, on est en train d'en discuter parce que moi, j'ai envie de dire, vu que j'ai fait le film pour 1 200 €, je pourrais dire 10 000 euros, super, c'est Byzance. Mais ça risque de grimper, ça reste toujours dans juste une centaine de milliers d'euros. Voilà, c'est tout.
Ah oui,
mais ça va pas claquer au-delà parce que... Mais c'est surtout, en fait, si tu veux, par exemple, vu que nous, on a fait bosser tout le monde gratuitement sur Die Die My Darling, ce sera 1 200 €, ça va. Mais si tu payes tout le monde et qu'en plus, tu essaies de gratter un acteur anglo-saxon qui peut avoir un second rôle et qui garantit la vente du film, ça grimpe très facilement. Donc, c'est pas qu'on aurait plus de moyens, c'est juste pour vraiment pouvoir payer tout le monde. C'est surtout ça. Et si ça marche, c'est la fête. Je cours tout nu sur la comédie pendant 3 jours.
Et tu te fais une coiffure punk maintenant, c'est ça qu'il faut faire. Arnaud, toi, t'as déjà dit ce qui s'était passé à Cannes. Oui. T'as vu des films, ils vont être projetés à l'Utopia bientôt.
Oui.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes ?
On termine avec l'agenda et justement on va parler d'Utopia puisque ce soir sera projeté 1962 de l'Algérie française à l'Algérie algérienne de Malek Ben Smaïl, c'est ça ?
Demain.
Ah, c'est demain ? Ah, moi j'avais ce soir. Bon, ben c'est demain alors. C'est demain, donc il y a l'Utopia, en présence du réalisateur, un plutôt bon réalisateur
deux
de documentaire.
En fait, ils sont deux. Un Algérien et une Française qui ont croisé leur regard sur la décolonisation. C'est magnifique.
Donc ça, c'est demain. Demain aussi, dans cet autre genre, Arrête de pleurer, Pénélope, ce sera au Gaumont Multiplex à 20h. Eh oui, Marine. Il y a aussi une seconde femme de Umut Dag à 19h55. Ça, c'est au Diagonal. Le vendredi 1er juin, au Gaumont Multiplex, l'avant-première de Quand je serai petit, réalisé par Jean-Paul Rouve en présence du réalisateur et puis d'Amélie Simon qui signe la musique de ce film. On aura peut-être une interview, eh oui.
Mais oui.
Et puis il y a aussi la soirée Cour Drive in Show, présentée par les étudiants de Subdocom. Vous serez plongé dans l'atmosphère des années 50 américaines et vous pourrez voir une sélection de courts-métrages de réalisateurs régionaux. C'est à 20h, c'est 499 rue de la Croix-Verte à Montpellier. Et puis le samedi 2 juin, au Diagonal à 17h45, il y a le grand soir de Benoît de Lépine et Gustave Kervern, avec la présence de Kervern et Albert Dupontel. Donc film apprécié par Arnaud sur la croisette. Et puis, ils seront aussi présents au 6e week-end du cinéma belge à Frontignan. Enfin non, ils ne seront pas présents cette fois-ci. Ce sera Benoît Delépine qui viendra présenter le grand soir à 21h30. Et puis, il y aura la rediffusion, on va dire, de Belhead, comment il s'appelait son prénom, je ne sais plus, mais Roskam, et avec Mathias
Schoenert,
qui était dans De Rouille et d'Os, un film formidable, moi, que j'avais trouvé super beau, qui avait été projeté à l'Utopia, c'est facilement.
Très, très bon.
Donc, ça, c'est le week-end du cinéma belge du 1er au 3 juin. Et sinon, le 3 juin, Gaumont Multiplex à 11h, c'est Madagascar 3. Enfin, tu as refusé de voir Marine à Cannes, alors qu'on te le proposait. Le lundi 4 juin, à 20h30, c'est l'avant-première du film L'Ekaïra. On ne sait pas ce que... Enfin, probablement qu'on n'ira pas. Et non. Mardi 5 juin, au Gaumont, c'est à 20h. Et c'est Bowling de Marie Castille-Menton-Charard avec Catherine Fraud. Beaucoup d'avant-premières, quand même, au Gaumont. Voilà. Mm-hmm. Bah, c'est l'été qui arrive, il faut mettre en avant les films.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Ainsi s'achève donc Cinérama. Merci à nos invités. Et au prochain Cannes, peut-être.
Merci. Juste après, retrouvez l'émission 24 notes secondes consacrée cette semaine à Alain Delon. Oh là merci. Là. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.